Bonjour, Nicolas, ça va bien? Oui, donc Nicolas, toi, tu es permanent au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, c'est ça?
Oui, en fait, je suis coordonnateur du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, effectivement.
OK. Donc, le Comité Saint-Jean-Baptiste à Québec, pour le situer un petit peu pour les auditeurs auditrices, ça se situe dans la région de la rue Saint-Jean, dans le fond. C'est proche du Carré-Diouville.
Ben en fait, tu vois, dans le centre-ville de Québec, tu as la Haute-Ville. Et dans la Haute-Ville, il y a plusieurs quartiers, dont le quartier Saint-Jean-Baptiste, qui effectivement se trouve à être le quartier dans lequel est la colline parlementaire.
Okay.
Donc ça va des plaines jusqu'à la falaise et de la falaise de Dufresne-Montmorency, de la Côte d'Abraham, et justement bon, de Dufresne jusqu'à Salaberry, ou en tout cas des portes jusqu'à Salaberry.
Donc,
c'est tout de suite collé sur le Vieux-Québec en Haute-Ville,
okay.
Mais en dehors des murs. Mettons, ça te situe-tu?
Ah ben moi, je sais c'est où parce que j'ai déjà vécu à Québec. Là. Pour les auditeurs et auditrices, j'espère que ça a été clair.
D'accord. On va souhaiter.
Oui, c'est ça. Dans le fond, une des raisons pourquoi est-ce qu'on était motivé à avoir une entrevue avec le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, c'est que dans ce quartier-là, il y a une lutte populaire, du moins une implication des citoyens et citoyennes dans les enjeux qui les concernent, du moins dans ce quartier-là. Ça a été c'est un endroit où est-ce qu'il y a, comme tu le disais, la colline parlementaire, il y a aussi des gros hôtels commerciaux, il y a le centre des congrès. C'est aussi un endroit où est-ce qu'il y a eu un squat, je pense en 96, c'est bien ça?
Non, 2002.
2002, OK. Donc, c'est plus récent que je pensais. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que je pense que cette région-là de la ville de Québec est un lieu où est-ce que l'implication peut être intéressante. Puis, je pense que c'est à travers le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste qu'on peut le voir à travers le temps le mieux, dans le fond. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, du moins à en apprendre plus à partir du DVD que vous avez diffusé. Puis sur ce DVD-là, il y a un documentaire qui relate les événements des années 70.
Oui,
donc,
oui,
est-ce
oui.
que c'est dans cette période-là qu'est né le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste?
Oui, ben le Compop est né en fait, ça dépend si on regarde la naissance officielle ou la naissance, point, finalement. C'est autour de 76-77. 1976-1977 et non pas 1876-1877. Donc, il y a une trentaine d'années, 33 ans. Donc, c'est ça, il faut se replacer à l'époque à Québec. Il y a depuis plusieurs années un phénomène que les élites appellent la rénovation urbaine, mais qui est en fait un processus de destruction des vieux quartiers centraux. Bon, c'est quelque chose qui se vit à Québec, mais qui se vit aussi à Montréal et à Ottawa. Et donc, c'est ça, on démolissait les quartiers ouvriers pour faire de la place pour tout plein d'institutions. Et dans le cas de Québec, mais c'est pour faire de la place à la colline parlementaire. Parce que la Révolution tranquille a amené une redéfinition de l'État et un redéploiement de l'État québécois. Et à un moment donné, il fallait les loger, les nouveaux fonctionnaires du ministère de l'Éducation, il fallait les loger, les fonctionnaires du ministère de la Santé. Et les fonctions centrales de l'État se sont placées à Québec, dans la capitale nationale, autour du Parlement, là où il y avait des gens. Et tu vois, en 10 ans, dans les années 60-70, on a perdu à peu près la moitié des résidents là, de Saint-Jean-Baptiste. Il y a plusieurs milliers de logements qui ont été détruits dans Saint-Jean-Baptiste, dans Saint-Roch, dans tous les quartiers du centre, tous les vieux faubourgs ouvriers. Puis à ce moment-là, un peu partout en ville, pas juste dans Saint-Jean-Baptiste, il y a des citoyens qui se sont regroupés en comité de citoyens, en groupe populaire, pour résister, puis pour essayer de défendre leur quartier, défendre leur maison. Et donc c'est ça. Puis nous, on est nés là, dans cette vague-là. Un petit peu sur le tard, là, dans la mesure où, tu vois, dans Saint-Sauveur, c'était déjà en 69 que le comité s'était mis sur pied. Puis dans Saint-Roch, c'était en 66. Fait que ça faisait déjà 10 ans dans Saint-Roch que les gens étaient organisés en comité de citoyens. Et donc c'est ça. Dans les années 70, les gens se sont regroupés pour faire face aux démolitions. À l'époque, ils pensaient faire... raser là, à peu près la moitié du quartier, de ce qui restait du quartier pour faire passer une autoroute. Il y a comme une espèce de projet, là, un méga projet là, de
qui est d'ailleurs le sujet du documentaire de, sur le DVD, là, le documentaire qui s'appelle Saint-Gabriel de Force.
Donc c'est ça, c'était toute la rue Saint-Gabriel qu'on devait faire sauter. Puis, et d'autres bouts, là, en fait, on a fait sauter tout le haut du quartier, là, de Saint-Jean jusqu'aux plaines, pour faire des bretelles d'autoroute et autour de la colline parlementaire pour permettre aux gens, en fait, de partir du centre puis d'aller vers la banlieue ouest, c'est-à-dire Sainte-Foy. Et puis, ben, c'est ça, les gens se sont regroupés, ont mis sur pied là, un comité de citoyens et une coopérative d'habitation, et c'est de là qu'est né le comité populaire, c'est à partir de là. Puis, c'est ces luttes fondatrices-là qui font notre spécificité aujourd'hui, dans la mesure où nous, c'est un groupe populaire qui est un comité de citoyens, qui n'est pas juste un comité logement ou qui n'est pas juste un groupe de personnalité sociale ou qui n'est pas spécialisé. Donc, c'est
plus englobant que simplement le logement.
Nous, comment on voit ça, on essaie de défendre les droits et les intérêts des résidents du quartier, là, mais c'est leurs droits sociaux, politiques, culturels et dépendamment des périodes. Ceci dit, c'est sûr que, étant donné le contexte dans lequel on est né, puis étant donné là, comment on s'est développé, ce sur quoi on se bat surtout, c'est toutes les questions d'aménagement urbain et de logement.
OK, principalement.
Okay. Oui.
Puis, dans le fond, c'est quoi les enjeux, vos campagnes? Parce que je sais que, il n'y a pas si longtemps, vous aviez participé ou organisé des manifestations pour protéger les gens de la communauté contre la circulation de transit. Donc, ça doit être un de vos enjeux principaux?
Oui. Ben, en fait, tu vois, il y a plusieurs enjeux d'aménagement et quelque chose qui est présent depuis super longtemps puis qui a pris une ampleur démesurée là, depuis quelques années, c'est l'enjeu de la place de l'automobile au centre-ville. Et puis ça, on le voit, là, c'est pas juste dans Saint-Jean-Baptiste, on le voit partout. Puis actuellement, il y a tout le phénomène de la circulation de transit, parce que bon, il y a du trafic et les gens, pour éviter ce trafic-là, sortent des grandes artères et ils passent par les petites rues résidentielles pour essayer de sauver du temps, pour essayer de sauver du trafic. Puis ils font ça dans tous les quartiers. Et dans tous les quartiers où il y a des bouchons de circulation.
Oui, ils font ça aussi à Sherbrooke.
Oui, puis ils font ça à Sainte-Foy aussi. Puis là, ben là, ils commencent à avoir des gens dans les quartiers qui se réveillent et qui commencent à dire, ben là, ça n'a pas de bon sens, ça. Et il faut trouver des manières de stopper ça. Et dans Saint-Jean-Baptiste, tu vois, ben la question de l'automobile est importante dans la mesure où, tu vois, l'automobile, c'est essentiellement le fait de banlieusards. C'est le fait de gens qui sont...
C'est du trafic de transition, comme ils partent de leur maison le matin et puis s'en vont travailler.
Et les gens là, du centre-ville se retrouvent dans une situation où, dans leur majorité, ils ont choisi de vivre au centre-ville pour justement pas avoir de char, puis là, ils sont pognés avec les chars des autres. Fait que c'est un peu débile. Et sans parler de ceux qui ont effectivement une voiture puis qui n'ont plus de place pour se stationner et tout. Donc, c'est pas nécessairement d'éliminer toutes les voitures, mais mettons de diminuer de beaucoup le nombre de voitures dans le quartier, et au moins d'essayer d'éliminer celles qui n'ont pas à faire dans le quartier. Celles qui toute la circulation qui fait juste traverser le quartier justement pour sauver du temps. Tu sais, quelqu'un qui vient, qui a à faire dans Saint-Jean-Baptiste, qui travaille dans Saint-Jean-Baptiste, qui vit dans Saint-Jean-Baptiste, qui va visiter quelqu'un dans Saint-Jean-Baptiste, qui va sur la rue Saint-Jean parce que, je sais pas moi, il y a tel commerce qui veut aller visiter ça, à la limite, bon, ça va. T'sais, genre, à faire, c'est, bon, qu'est-ce que tu veux. S'ils viennent en voiture, on peut pas les empêcher, c'est leur droit le plus strict. Mais après ça, ceux qui font juste passer, ben là, ils pourraient passer ailleurs. Notamment sur des grands boulevards qui sont faits pour ça. Fait qu'il y a toute cette question-là. Puis là, ben là, actuellement, c'est notamment sur la rue d'Aiguillon où est-ce qu'il y a une grosse bataille sur la circulation de transit. Là, les résidents d'Aiguillon sont un peu capotés. Ils sont un peu en train de capoter à cause de la situation parce que d'Aiguillon, c'est une petite rue qui est parallèle à Saint-Jean. Et c'est une rue résidentielle. Il y a une voie. Ben, il y a deux voies, en fait. Il y a une voie qui est de stationnement, puis il y a une voie qui est de circulation. Et c'est une petite rue résidentielle sur laquelle il y a 250 logements, une école primaire, une quincaillerie. Et pourtant, c'est un flot continu de voitures parce qu'ils se servent de l'aiguillon pour contourner le quartier, pour passer au travers. Et c'est vraiment... parce qu'elle va dans le sens contraire de Saint-Jean. Donc, pour sortir du quartier et aller vers l'ouest, les gens prennent l'aiguillon. Et c'est ça, puis là, les résidents d'Aiguillon, ils veulent plus. Ils sont plus capables.
C'est dangereux, puis...
Ben oui, on se retrouve dans une place où, c'est que, écoute, t'as une cour d'école qui donne sur d'Aiguillon, et le ministère des Transports, la ville, refuse de faire baisser
la limite de vitesse?
La limite de vitesse, oui. Ils refusent d'appliquer le 30.
OK.
Fait que nous, on dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. Et donc, c'est ça. Il y a un comité de citoyens qui s'est mis sur pied, le comité Action des Guillons, qui mène une grosse bataille là-dessus. Puis ça s'est jumelé aussi avec le comité aménagement urbain. On a fait deux grosses manifestations et quelques blocages de rue. Puis deux manifestations dans le cadre de la journée en ville sans ma voiture.
Oui, qui est d'ailleurs, je pense, le moment où est-ce qu'il y a la rue Saint-Jean à la hauteur du quartier Saint-Jean-Baptiste qui devient vivante à ce moment-là de l'année.
Non, ben la rue Saint-Jean à ce moment-là est bloquée, mais okay. dans le vieux. Pas dans Saint-Jean-Baptiste. Okay. C'est très protocolaire, c'est dans le Vieux-Québec, et puis les gens ont fait comme, ben la journée en ville sans ma voiture, là, c'est pas juste autour de la place d'Youville, là, ça devrait être partout, puis ils ont décidé d'essayer de se réapproprier ça, puis de faire de quoi de politique avec, et en fait, deux années de suite, des grosses manifestations dans Saint-Jean-Baptiste. Il y a aussi eu des blocages de rue là, entre les manifestations. Puis là, ben là, c'est ça. Là, on a forcé le conseiller municipal à s'intéresser à la chose. Il y a eu des consultations publiques où les gens sont arrivés avec leurs solutions puis tout, forcer la ville à s'intéresser à la chose. Sauf que là, ben là, ça brette. Puis là, actuellement, on est en train de se demander là, comment est-ce qu'on va faire pour remobiliser les gens. Parce que tu vois, les fonctionnaires à la Ville de Québec, ils s'assient là-dessus. Ils sont assis là-dessus depuis 5, 6, 7 ans. Là. Puis bon, les fonctionnaires, on s'entend, là, les hauts fonctionnaires, entre autres le directeur du service des transports. Puis, donc ça, c'est un des dossiers par rapport à l'automobile. Mettons le dossier négatif, le défensif. Puis sinon, il y a un dossier positif qui est autour il y a quelques années, on a fait une monographie sur le quartier, une étude socio-économique. Et une des affaires qui est sortie, c'était que ce serait le fun d'essayer d'expérimenter des choses différentes en aménagement. Et on a ressorti, quand on a fait des consultations auprès des gens, il y avait vraiment l'idée d'une rue piétonne. Puis la rue piétonne, c'est un peu complexe et pas évident à ramener. Fait qu'on a essayé de trouver quelque chose de mitoyen. Et on est arrivé avec le concept de rue partagée, qui est un concept qui a été développé en Europe, qui est une façon de repenser la rue pour mettre à égalité les différents usagers. C'est-à-dire que les piétons, les cyclistes, les poussettes, les automobiles, tout le monde soit à égalité. C'est un peu particulier. L'idée, en fait, c'est de transformer la rue en cour urbaine. C'est les Néo-Zélandais, ils appellent ça un WNERF. Et une cour urbaine, c'est-à-dire que tu enlèves les trottoirs, tu enlèves l'asphalte, tu t'enlèves tout le revêtement, tu transformes le revêtement pour que ce soit de la brique ou du pavé. Et donc, que ce soit pas... que tu le sens tout de suite en arrivant en voiture, que c'est un revêtement différent, et donc c'est pas de l'asphalte, ça roule pas facilement.
Je voulais juste souligner qu'on écoute présentement Nicolas du comité Saint-Jean-Baptiste à Québec. Il nous parle de son implication en tant que coordonnateur de ce comité-là. Et vous écoutez La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX.
Et tu réaménages pour mettre le mobilier à différents endroits pour que finalement ça ait pas l'air d'une rue. Et que les voitures finalement ralentissent radicalement et qu'on se retrouve avec les voitures qui vont à peu près à la même vitesse qu'un piéton normal, c'est-à-dire une dizaine de kilomètres
heure. OK. Fait que dans le fond, ça fait...
Oui. Puis, donc, l'idée, ce serait... On a une artère dans Saint-Jean-Baptiste, là. C'est la rue Saint-Clan. C'est la rue, là, qui descend de Saint-Jean jusque dans Saint-Roch, là, puis qui donne sur l'ascenseur du Faubourg.
Oui, OK.
Et ça, c'est la rue... Cette rue-là est particulière parce que, bon, vu qu'elle donne sur l'ascenseur, vu qu'elle débouche pas sur rien... comprends, c'est vraiment la rue où est-ce qu'il y a le plus de piétons, de circulation piétonnière.
Parce que le monde qui arrive de la...
Parce que le monde qui arrive d'en bas,
ouais.
Puis il passe par celle-là, puis ceux qui s'en vont en bas, ils passent par celle-là. Et souvent, ils sont aussi au milieu de la rue, pour différentes raisons, puisque dans Saint-Jean-Baptiste, l'hiver, c'est dangereux de marcher ces trottoirs, parce que tu peux toujours avoir un bloc de glace qui te tombe sur la tête.
Oh là là.
Donc, cette rue-là, on a dit, bon, on veut que ce soit une rue partagée, puis on mène une bataille là-dessus depuis plusieurs années, et peut-être 3 ou 4 ans. Et là, c'est ça, là, dans Saint-Jean-Baptiste, à cause d'une conjonction un peu particulière, là, ils en sont rendus à être obligés de refaire toutes les rues, parce qu'ils se sont assis là-dessus pendant 10-15 ans en espérant qu'Hydro-Québec, un jour, veuille enfouir les fils, ce qu'ils n'ont jamais voulu faire. Mais là, ils sont rendus à l'étape où il faut qu'ils fassent absolument quelque chose, fait qu'ils vont être obligés de réaménager les rues, de tout faire la réfection de tout. Puis on a réussi, je sais pas trop comment, là, à force de pression, puis d'imagination, puis de travail, à convaincre la ville de s'intéresser à ce projet-là. Et ils ont engagé là, un chargé de projet, un architecte, pour travailler sur des esquisses, pour effectivement faire un projet pilote de rue partagée sur Sainte-Claire, et aussi des projets pilotes sur deux autres rues qui, elles, seront, seront parallèles à Saint-Jean, où ils vont essayer de réduire à son minimum le trottoir d'un côté et l'élargir à son maximum de l'autre côté pour reconfigurer la rue de façon à ce qu'il y ait plus de place pour les piétons, les poussettes et qu'on réduise le champ visuel de façon à ce que ce ne soit pas accueillant pour une automobile.
Non, c'est bien ça. Fait que dans le fond, le quartier Saint-Jean-Baptiste, ça fait depuis les années 70 là, que l'automobile est un problème.
Ben, l'automobile est un problème depuis que l'automobile s'est rendue à une structure de masse. Le quartier a été construit et fait pour des chevaux.
Ah, OK. Fait qu'il est si vieux que ça, dans le fond. Okay.
C'est pas... Dès que l'automobile a été...
Inventé dans le centre-ville, c'était pas une bonne chose.
Maximum, là, parce que, tu sais, c'est un quartier où il y a des portes cochères. Où c'était fait pour les écuries, pas pour les garages. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Puis c'est ça, sinon, d'autres projets, là, ça c'est les questions là, d'aménagement, puis de... On a aussi un site de compostage communautaire. On travaille aussi beaucoup sur toutes les questions du logement. Là, on est membre du Frappru.
Oui, bien, pour ce qui est des...
Là, on a un gros projet de coopérative là, qui...
OK.
Donc, le chantier va débuter en avril.
C'est la coopérative d'habitation de l'Escalier, est-ce
ouais,
que je me trompe?
Okay. C'est l'Escalier. Ça, c'est sur l'îlot Berthelot. L'îlot Berthelot, là, ça fait une trentaine d'années qu'on se bat sur cette affaire-là. Là.
Est-ce que c'était là qui était le squat
ouais,
avant?
C'est là qui était le squat.
Ben, parlons-en du squat. Est-ce que tu peux raconter un peu comment est-ce que, si toi, tu étais proche de ça, si tu peux nous raconter l'histoire brièvement pour justement aboutir
moi,
à la coop?
Oui, bien, le squat, ça commence avant le squat, premièrement. Ça commence il y a de cela fort longtemps. Dans les années 70, le boulevard qui s'appelait à l'époque Saint-Cyril, qui s'appelle aujourd'hui le boulevard René-Lévesque, a été reconfiguré radicalement, puis ils en ont détruit des grands bouts pour, d'un côté, faire le complexe G et tout plein d'édifices gouvernementaux, et de l'autre côté, faire des hôtels. Alors, c'est là qu'il y a le Hilton, c'est là qu'il y a le Delta, c'est là qu'il y a plein de grosses affaires. Et donc, à un moment donné, tu avais... À partir du bout, tu as l'Hilton, après ça, tu as une autre affaire, après ça, tu as Place Québec, après ça, tu as le Delta. Puis là, après ça, tu étais supposé de continuer d'avoir des hôtels. Et il y a une compagnie qui avait acheté le terrain de l'îlot Berthelot et qui devait faire des hôtels là. Puis là-dessus, il restait, pour une raison bizarre un peu, six maisons dans lesquelles il y avait des locataires qui ont joué un peu aux irréductibles gaulois à l'époque. Et qui ont évité la démolition de leur maison et qui se sont battus pendant vraiment longtemps pour faire ça et pour récupérer le terrain et éviter que ce soit démoli, transformé en hôtel ou en fonction institutionnelle. Et à la fin des années 80, quand à Québec, il y a eu les batailles populaires et politiques se sont transférées sur la scène municipale puis que le Rassemblement populaire a gagné les élections en 1989, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a exproprié l'îlot Berthelot pour sortir les terrains de la spéculation parce que c'était rendu les terrains les plus chers en ville, ceux qui valaient le plus cher. Et eux, ils voulaient casser la spéculation au centre-ville. Une façon de faire ça, c'était ça. Ils ont fait une coopérative d'habitation avec... ils l'ont pas fait d'un coup, là. Nous, on est obligés de se battre. Bon, ils ont fait le centre des congrès. Puis nous, ce qu'on disait, c'était... Si vous mettez tant de millions de dollars dans le quartier pour faire un centre des congrès, vous allez mettre tant de millions de dollars sur les coops. Vous allez mettre 1 million sur les coops. Et on voulait un projet là, de développement de l'ensemble de l'îlot Berthelot. Mais au final, on a réussi à gagner qu'ils fassent une première coopérative, qui est la coopérative de l'îlot Berthelot. On a sauvé 4 des 6 maisons. Ça, c'est au milieu des années 90. Puis là, après ça, bon, ça continue. On a fait plein d'autres affaires. Nous, on était, nous, on avait nos locaux là, là-dedans jusqu'en 98. Et puis après ça, ben c'est ça a été laissé de côté un peu, puis il restait 2 maisons abandonnées. Et en 2001, 2002, je sais pas si tu te souviens, peut-être les auditeurs s'en souviennent, ceux qui étaient déjà locataires à ce moment-là, en 2001, il y a une crise du logement qui a éclaté au Québec, et ça a vraiment frappé Québec en 2002 de façon très très forte, et le Frappru à ce moment-là, en 2001, se demandait, mais qu'est-ce qu'on... avec cette affaire-là. Puis une des choses qui ont poussé, c'était une radicalisation des luttes. En 2001, il y a eu le squat à Montréal, le squat d'Overdale. Puis au congrès de 2001 du Frappru, les délégués, en fait, il faut faire quelque chose. Là. Il y a du monde qui se retrouve en rue, ça marche pas. Il y a le squat puis tout. Fait qu'ils ont lancé l'idée d'une semaine nationale d'occupation. Ça devait se passer en mai 2002. Puis nous, ben, vers la semaine nationale d'occupation, ce qu'on a organisé, c'est... l'occupation du 920 de la Chevretière, qui était une des 2 maisons laissées vacantes qui appartenaient à la ville, à l'îlot Berthelot, pour dire, on a fait la première phase de la coop, maintenant on va faire la phase 2. puis on va développer le reste du site. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un promoteur de condos qui voulait développer du condo de luxe sur ce terrain-là. Et nous, on est allés, comme des chiens dans un jeu de quilles, on est allés occuper une maison qui appartenait à la Ville de Québec en disant, il n'y aura pas de condos ici, ça va être des coops puis du logement social pour le monde. Et puis là, ben là, je te passe le détail, mais les squatteurs, dont je n'étais pas, parce que moi, je viens juste d'avoir, j'ai une petite fille qui est née le 17 mars 2002, fait que tu imagines bien que le 17 mai 2002, je n'étais pas en train d'occuper une maison laissée vacante par la Ville de Québec. Donc, pendant 4 mois, enfin bref, il y a un collectif de squatteurs appuyé par le comité populaire. Tu sais, l'occupation est organisée par le comité populaire, mais à un moment donné, les squatteurs ont repris en main l'occupation. Donc, pendant 4 mois, il y a un collectif de squatteurs qui a occupé le 920 de la Chevretière et qui a réussi à imposer plusieurs de ses revendications, dont notamment, entre autres, une des revendications qui était portée par le comité populaire et les squatteurs à l'époque, c'était un moratoire sur la conversion de logements en condo tant que le taux d'inoccupation ne serait pas levé au-dessus de 3%. Et quand on avait ramené ça les premières fois, tout le monde me disait « Mais vous êtes complètement malade de revendiquer ça. T'sais, ça va directement contre le droit de propriété. De quel droit la ville ferait ça? » Et durant l'été, ils nous ont accordé cette affaire-là. Et c'est ça. Puis bon, on a fini par être expulsés. Un an plus tard, on avait une nouvelle semaine nationale d'action. Et on a relancé les processus. Et là, la ville, pour être sûre qu'on lui refasse pas le coup, a payé quelqu'un, un gardien de sécurité, pendant un mois, 24 sur 24, devant le 920 de la Chevretière.
Pour pas que vous y alliez?
Oui, pas qu'on y aille. Ils ont fini par percer le toit.
Pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui puisse y aller?
Oui, pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui puisse y aller. Et au final, ils l'ont détruit.
OK.
Le 920 de la Chevretière en mai 2003. Et là, ben là, c'est ça. Après ça, nous, le projet de condo est tombé en 2004. Puis là, on a relancé le processus. On est tout de suite arrivé en disant, nous, on a un projet concret, on veut une coopérative d'habitation. En fait, deux coopératives d'habitation sur le site de l'île Berthelot. Puis là, ben là, de fil en aiguille, à force de pression, puis on a organisé un comité de requérants avec des gens là, qui en avaient besoin et tout, puis qui ont mené la bataille, puis qui ont fondé la coop Escalier. Et de fil en aiguille, on est arrivé à une situation où, finalement, aujourd'hui, il y a un chantier qui va débuter en avril pour 80 unités de logement sociaux sur ce site-là.
OK. Donc, c'était à propos de la lutte sur l'habitation dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.
Oui, ben, c'est un des exemples, là, parce que c'est sûr que c'est pas la seule coop. On est rendu à peu près 15% là, de logements coopératifs dans Saint-Jean-Baptiste.
OK. Puis, dans le fond, c'était vraiment une des raisons pourquoi est-ce que je voulais vraiment avoir une entrevue avec le Compop. C'était en partie celle-là. Mais aussi, tout l'aspect de création de projets parallèles, comme tu le disais précédemment, le Compop, c'est pas simplement un comité qui vise une clientèle sociale, entre parenthèses, là, qui va aller s'orienter vers... vers une seule lutte. Donc, je pense que vous avez différents comités avec différents objectifs, comme partage de jouets, vestiaires.
Ben, les jouets, ça c'est un peu particulier. C'est le Centre Famille Hauteville qui est rendu un groupe indépendant là, depuis. Il a été fondé en septembre 2001. En fait, c'est ça. C'était à la fin des années 90, début des années 2000. C'était un groupe de mamans qui était regroupé au comité populaire pour un projet de coopérative, la coopérative Beau Soleil, un projet de coopérative qui, par ailleurs, a foiré. Mais tu sais, quand les gens ils se regroupent pour des coops, ben, évidemment, à un moment donné, ils ne parlent pas juste de coop. Ils parlent de leur vie aussi, puis de différentes affaires. Puis un truc qui avait identifié ces mamans-là, c'est cher, les jouets. On finit tout le temps par les jeter, puis on est plein de bébelles, puis on était carré d'avoir plein de bébelles, puis on aimerait ça pouvoir avoir une joujoutèque. Donc leur projet, c'était une joujoutèque, puis là, ben là, c'est ça, avec les organisateurs communautaires au Compop, puis au CLSC, on s'est débrouillé pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Puis ça a fini par aboutir au Centre Famille Hauteville, qui est à la base, c'est une joujoutèque, mais c'est beaucoup plus qu'une joujoutèque. C'est aussi un répit parental, c'est aussi un groupe de parents, de gens qui s'organisent. Et là, ben là, c'est ça. C'est à partir de là, c'est comment est-ce que c'est un groupe qui existe par et pour les jeunes familles du centre-ville. Puis c'est pour répondre à l'ensemble des besoins. Parce que on s'entend-tu que c'est pas tout à fait les mêmes besoins pour les jeunes familles au centre-ville, dans les centres-villes, que dans les banlieues, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres affaires de ce genre-là. Des fois, ça va être des sous-comités, comme on a le vestiaire du Faubourg, là, qui est une friperie qui s'est jamais rendue autonome parce que c'était comme pas possible. Puis d'autres fois, ben, c'est ça, on aide à fonder des groupes qui deviennent autonomes, comme le Centre Famille Roosevelt.
OK, c'est intéressant. Ben, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue aujourd'hui. Merci, Nicolas.
Ben, ça me fait plaisir.
Nicolas parlait en tant que coordonnateur du comité populaire Saint-Jean-Baptiste.
Ben, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent toujours aussi... allez visiter notre site web.
Qui est le?
www.compop.net.
Excellent. Ben, merci beaucoup. Puis, on vous invite à en apprendre plus sur le Compop. C'est un organisme super intéressant. Puis, il y a d'ailleurs un DVD qui relate de différents événements qu'on a parlé, comme par exemple la lutte contre la transformation de la rue Saint-Gabriel en autoroute dans les années 70, qui est un excellent documentaire, et aussi une vidéo sur le squat de la Chevrotière en 2002.
Tout ça, ça s'appelle « Dans mon quartier » et c'est effectivement disponible. Vous avez juste à checker, là, il y a toute l'info sur le site.
Donc, on vous dit ben merci beaucoup, merci. Nicolas.
À la prochaine.
Salut.
Salut.
C'est à Félix. 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
On va maintenant passer à une écoute d'une chronique sur l'anarchisme. En fait, on est allé chercher ça sur Internet. C'est une chronique qu'on trouvait suffisamment intéressante et instructive pour pouvoir la mettre en onde. Bonne écoute.
L'anarchisme français d'avant la Première Guerre mondiale, et c'est un moment historiquement important de l'histoire de la CGT française. Cette charte, elle a été interprétée de différentes façons, elle a été, beaucoup de syndicats s'en revendiquent, même si pourtant c'est bien souvent une tarte à la crème à laquelle on fait dire tout et n'importe quoi, et qui permet à justifier beaucoup de choses. Néanmoins, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la charte d'Amiens, c'est un texte d'orientation syndicale. C'est-à-dire c'est un texte qui va être adopté au congrès de la CGT en 1906 dans la banlieue d'Amiens dans le Nord, où le but c'est de faire le point sur l'état du mouvement syndical français, la CGT en particulier.
Donc, comme on a pu le comprendre, il s'agit d'une histoire du syndicalisme d'action directe.
1789, prise de la Bastille par le peuple de Paris. C'est le début de la Révolution, mais la bourgeoisie prend vite le pouvoir. Le 14 juin 1791, l'Assemblée nationale vote la loi Le Chapelier, qui supprime les corporations et interdit les associations ouvrières et les grèves.
Il s'agit des fondements du système de la démocratie. Donc, supprimer les grèves, c'est depuis la Révolution française qu'on nous a servi.
Le 19e siècle vit l'avènement de la grande industrie. Les grosses usines sont aux mains des capitalistes. Elles regroupent des centaines, voire des milliers d'ouvriers. Les conditions de travail étaient très dures. 15 heures par jour, les salaires très bas, obligeant les familles à accepter le travail des enfants au-dessous de 8 ans. Conditions d'hygiène et de sécurité étaient ignobles. Cette situation intolérable amènera de nombreuses grèves et révoltes. En 1831 à Lyon, la révolte des Canuts, travailleurs des soieries. Des barricades sont dressées, des coups de feu sont tirés, et pour la première fois, il y a l'apparition du drapeau noir. En 1838, Pierre-Joseph Proudhon défend le premier concept de mutualisme et d'autogestion fondé sur la réciprocité désintéressée, basée sur l'entraide et la solidarité. Il déclare « Nous, producteurs, associés ou en voie d'association, nous n'avons pas besoin de l'État. Nous voulons que les associations ouvrières soient le premier noyau de cette vaste fédération de compagnies et de sociétés. »
En 1841, une loi...
Précision aussi, il ne s'agit pas de compagnie capitaliste, mais bien de compagnie dans le terme, où est-ce que c'est des comités de travailleurs et de travailleuses et aussi des corporations de dans le sens où est-ce qu'on peut le comprendre, où est-ce que c'est des unions de travailleurs, dans le fond. Donc, il ne faut pas aller penser que c'est qu'on parle de théorie d'abolition de l'État au faveur de compagnies privées, là. C'est simple précision, devais-je le préciser?
Interdit le travail des enfants de moins de 8 ans, et pour ceux de 8 à 12, impose une journée de 8 heures. 1848, première révolution sociale. Les travailleurs imposent la Deuxième République et des mesures sont votées. Le droit au travail fut proclamé. Le 28 septembre 1864, sur le principe d'une solidarité internationale, des ouvriers anglais et français, réunis à Londres, fondent l'Association internationale des travailleurs, AIT. Deux courants sont présents, le socialisme autoritaire avec Marx et le socialisme libertaire avec Bakounine.
Bakounine qui a été expulsé de l'Organisation internationale des travailleurs suite à une proposition de la lignée marxiste. Bakounine a écrit un livre qui s'appelle « Dieu et l'État » qui est pour les personnes qui souhaitent s'intéresser à l'anarchisme qu'on pourrait parler plus classique à ce moment-là. « Dieu et l'État » est une œuvre intéressante.
Insurrectionnel ne s'étend malheureusement qu'à une partie du pays. Le sinistre tiers et les Versaillais, avec le soutien de l'Église, anéantissent l'insurrection par une répression sanglante.
Pour le premier ange, nous à terre. À terre. Le temps en joue.
Les militants les plus actifs furent pourchassés et fusillés. D'autres furent déportés en Nouvelle-Calédonie, comme Louise Michel.
Comme on en parlait avec l'auteur de « Sur les traces de l'anarchisme au Québec », ce moment de l'histoire française, c'est-à-dire l'exil suite à l'insurrection de la Commune de Paris, a donné lieu à un des moments où est-ce que les anarchistes sont venus émigrer au Québec. Donc il y a comme on le disait des anarchistes qui sont allés s'installer au Saguenay, au Québec, à Québec et aussi à Montréal.
1872, au Congrès de la Haye, c'est le clash. Marx fait exclure de l'international Bakounine et ses amis anarchistes. Après la commune, il ne reste que peu de syndicats. Ils sont éparpillés par corporation, sans lien entre eux. Il était donc difficile de mener des luttes sans une véritable organisation. C'est pour répondre à cette pénurie qui se crée à Lyon en 1886, la Fédération des syndicats et groupes corporatifs ouvriers de France. Mais dès le début, la fédération est contrôlée par les socialistes dans le Parti ouvrier français de tendance guettiste.
1880, il y a la loi Waldeck-Rousseau qui donne un statut légal au syndicalisme en France et les syndicats, en existant légalement, vont avoir besoin de lieux pour se réunir, pour élaborer leur action, pour se retrouver. Et donc l'idée d'une bourse du travail, c'est à la fois ouvrir un lieu où on va ouvrir un bureau de placement, mais on va aussi donner des locaux au mouvement syndical naissant pour pouvoir se réunir. Je crois que les bourses du travail, ça a été une structure originale du syndicalisme français. Notamment dans une période qui a duré de la fin du 19e siècle à des années, on va dire, 1890 à la Première Guerre mondiale. Ça a été une structure originale du syndicalisme français parce que c'est cette initiative qui a permis de doter le syndicalisme français d'une double dimension qui était ce que j'appelle une dimension verticale et une dimension horizontale. C'est-à-dire quand on était syndiqué à l'époque, on était adhérent de son syndicat professionnel et son syndicat professionnel était fédéré au niveau national à une fédération de métiers ou d'industrie. Par exemple, un charpentier était membre du syndicat du bâtiment de sa localité, le syndicat du bâtiment était membre de la fédération du bâtiment au niveau national, ce qui permettait d'entraîner une solidarité professionnelle à l'échelle nationale et de mener des luttes corporatives. Mais en même temps, par l'existence des bourses du travail à une échelle locale, et bientôt par la création de leur fédération, ça va créer un deuxième fédéralisme qui, cette fois-ci, est horizontal. Et à retenir des bourses du travail, il y a deux choses essentielles. D'une part, l'importance des solidarités interprofessionnelles, et par ailleurs la capacité à être à la fois des centres de services sociaux à destination de la population ouvrière de l'époque et des centres de résistance ouvrière et d'élaboration d'un projet de société, socialiste au sens large, c'est-à-dire en rupture avec la société capitaliste du mouvement. Les bourses du travail se voulaient être l'embryon quelque part de la société future et en ce sens-là, elles mettaient en place des services ouvriers qui devaient préfigurer la prise en charge de la société future par les syndicats ouvriers eux-mêmes. C'est-à-dire que les bourses du travail, elles vont réussir à répondre et apporter des réponses concrètes en termes d'éducation, en termes de santé ouvrière, en termes de culture, mais avant tout en termes de placement des sans-travailleurs, dans un contexte où la classe ouvrière était socialement marginalisée, où n'existaient pas les formations professionnelles étatiques, où n'existaient pas les services de placement étatique et de protection du chômage, où n'existait pas la sécurité sociale. Mais c'est un mouvement qui allie la lutte revendicative avec, je dirais, l'éducationnisme ouvrier et la capacité, pour reprendre les termes de Fernand Pelloutier, qui était secrétaire de la Fédération du Travail, de donner aux ouvriers la science de leur malheur ou alors d'éduquer pour révolter, pour reprendre une autre de ses expressions fortes. Et c'est réellement les bourses du travail qui vont tenter de donner aux ouvriers la science de leur malheur, qui vont les éduquer pour mieux les révolter, qui vont tendre à constituer la classe ouvrière en une classe autonome par rapport à toute forme de représentation politique et par rapport à toute tentative d'intégration républicaine ou, je dirais, socialiste au sens social-démocrate du terme, marxiste, réformiste ou révolutionnaire. Quand le vent libertaire va souffler extrêmement fort dans le syndicalisme ouvrier, dans la CGT du début du siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais très clairement jusqu'en 1908, dans les bourses du travail, on va voir de nombreux militants libertaires et militants syndicalistes s'impliquer dans cette œuvre d'éducation populaire et d'éducation et de culture ouvrière. Une œuvre d'éducation populaire qui va passer par le développement des bibliothèques. Comme il y a des gens qui viennent chercher du travail dans les bourses du travail, bien souvent il faut attendre avant de passer au bureau de placement, avant de pouvoir aller au dispensaire syndical, plutôt que d'attendre bêtement dans une salle d'attente, pourquoi ne pas attendre dans une bibliothèque où on va pouvoir consulter la presse syndicale, où on va pouvoir consulter des journaux, et puis on va pouvoir y trouver des romans populaires, on va pouvoir y trouver des romans socialistes, syndicalistes, des romans théoriques, où d'ailleurs la place des penseurs libertaires de Proudhon, Bakounine, Kropotkin, Élisée Reclus, Louise Michel, va être prédominante par rapport aux auteurs socialistes, je dirais d'école marxiste, même si on y trouve souvent Jaurès ou Marx.
Pendant quelques années, les deux fédérations, Fédération des Bourses du Travail et des Syndicats, mènent leur activité chacune de leur côté. C'est en 1895, à Limoges, que les délégués syndicaux des deux fédérations entament le processus de constitution de la Confédération Générale du Travail. En 1901, la fusion est complète, mais malheureusement affaiblie par la maladie, Fernand Pelloutier meurt et ne verra rien de ce rassemblement.
Puisque c'est en 1902, à Montpellier, que la CGT en tant que telle, c'est-à-dire la Confédération de Fédérations Professionnelles, va s'allier avec la Fédération des Bourses du Travail. Et certains historiens d'ailleurs considèrent que c'est la véritable naissance de la CGT moderne, ce regroupement des fédérations professionnelles et de la Fédération des Bourses du Travail dans la CGT.
Pouget est rédacteur du Père Pénard, journal anarchiste. Il préconisait dès 1889 la grève générale. C'est au congrès de Toulouse, en 1897, qu'il fit adopter la motion de sabotage et de boycottage comme action de lutte. En 1900, création du journal syndicaliste La Voix du Peuple, dont Émile Pouget fut le rédacteur. L'action directe est le moyen de lutte adopté par la CGT. C'est avant tout une action syndicale entreprise par les travailleurs sans intermédiaire. Elle comprend la grève générale, le boycott, le sabotage, le label syndical, l'antimilitarisme et l'antipatriotisme. La CGT avait compris que la lutte contre le capital doit s'accompagner d'une lutte contre la religion et le militarisme. En 1905, création de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, sous l'impulsion de Jaurès. Elle regroupera tous les socialistes.
C'est que dans la CGT, pour arriver à contrer les éléments socialistes,
donc, nous sommes en onde à l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX. On va faire une pause des clips sur l'histoire du syndicalisme d'action directe en France pour parler avec David. David, bienvenue.
Salut.
Est-ce que tu viens nous présenter quelque chose aujourd'hui, David?
Oui, effectivement, je viens faire une bonne publicité, mais une publicité rentable pour la cause que nous partageons, puisque dans une grande liberté, chaque année, maintenant, ça va être la quatrième édition cet été du Festival du texte court.
OK.
Puis pour l'édition 2008 du Festival du texte court, on a produit un recueil voilà, d'une douzaine d'auteurs émergents, puis on vend... le recueil ce soir dans une soirée de lancement et dans une zone d'exclamation publique ouverte à tous au Boquet-Bière à partir de 8 heures. Et le but n'est pas de s'enrichir, mais plutôt de permettre la tenue de la quatrième édition de l'événement. Donc cet été, du 29 au 31 mai. Festival du texte court, entre autres, avec la finale de slam, un réclame ta rue, la soirée de lancement, gros spectacle de clôture, tout ça. Mais pour l'instant, l'invitation, c'est vraiment ce soir à compter de 20h au Boquet-Bière. Donc, zone d'exclamation publique. Tout le monde est bienvenu. Si vous voulez venir faire des textes, il va y avoir un intense moment d'open mic, des textes de une minute en série. Tout le monde peut venir faire des textes. Et à partir de 8h, la première partie, ça va être plus les auteurs du recueil, donc ceux qui ont été retenus dans le recueil, qui viennent présenter des textes aussi. Donc voilà, l'invitation est lancée à tous. Il va y avoir poésie, conte, slam, et il y en aura pour tous et toutes.
Excellent, ça.
Voilà. Puis je pensais peut-être faire un petit slam pour vous mettre l'eau à la bouche par la même occasion.
Ben vas-y.
Excellent. Alors un petit slam pour se mettre de bonne humeur en ce plein milieu de semaine. S'intitule positif. Et glisse ma plume, je l'échappe, c'est une enclume. J'ai l'esprit léger comme un dirou chargé d'acier. J'ai le bonheur qui a le rhume, mais bon, m'a forcé. La vie, c'est beau comme un calinours en rut. C'est bien parti. C'est beau comme une noyée sauvée des chutes Montmorency. Nous y voici. C'est beau comme la Freedom Tower construite sur une arnaque et sur la peur. C'est bon comme un néo-nazi zélé qui le sait pas puis qui te fouille en sueur. C'est bien comme le vœu de pauvreté qui brille dans l'or nickelé d'un Vatican touristé et celui de chasteté des pensionnats amérindiens. Il tombera pas enceinte, on verra rien. Oh oui, je sens que ça vient. Sac à papier que tout est beau et que tout va bien. Investissons des millions, des milliards dans la lutte à la drogue. Pas question qu'on s'y bute, même si en moins de 5 minutes, je peux trouver un once de coke à Magog. Et encore, hardcore, faut être positif. On subventionne le Nord, on a l'OGM festif. En Afrique, ils ont même pas de foire agricole ou à les taquiner le digestif. Ils ont la nature en idole, c'est vous dire si on l'empêche chétif. Et ne cherchez pas dans l'histoire, nos colonies n'ont rien à y voir. Allez hop, hop, on s'idéalise. Allez hop, schnell, schnell, on se visualise. Un beau gros tabarnak en ciel avec plein de belles douleurs dedans. Laisse faire des soins universels, on aime un beau design, c'est ton argent. C'est tellement sympathique qu'on va t'en faire du spécial pour les Olympiques. Puis si tu te sens mal, y a pas de mal. Va te noyer au pub, saoule-toi dans la pub, mais oublie pas de te raser le pubis puis de te placer dans la fonction publique. Y a rien de sale, c'est le nouvel ordre mondial. Et que ça goûte donc bon le contrôle social. 100 fois par jour, on me le dit, cale tort que c'est beau un char, maudit que c'est funny le crédit. 1000 fois par jour, on me le prédit. Une chance que j'ai de la scène à dépenser, j'en aurais des cernes à force d'y penser. Mais entre deux désintox, entre deux haines dévoilées, entre deux petites shots de botox, je pourrais m'envoler, voyager, comme engagé sur une belle mine bien personnelle, des beaux sur mes intentions dans un pays occupé. Nous occuper, c'est ça l'important. L'agenda caché de l'OMC et de l'OTAN. Qu'on pense qu'à nos nombris puis nos petits culs en regardant passer la mascarade de l'ONU. Hey, wow! Positif! Il n'y en a beau que nous, mais nous, nous sommes beaux. Regarde les beaux pixels sur ma belle photo, live d'un glissade du McDo. Mec, donne-toi une chance, embarque dans la danse, un push-push d'axe et c'est la transe. Toutes les totounes se frottent et ça bouge. Mais le code rouge aura sa cote si ta parano se relâche. L'âge des ténèbres sur le peuple et sur la plèbe à pleine dans nos manches. Mais réagis pas, fais le mort, t'as un beau steak de l'Ouest, faudrait pas qu'il se gâche. Pas de tort, pas de remords. Tout est beau, tout va bien. Je suis positif, je suis rentré dans ton système et j'y suis séropositif.
Yeah! Ouais, félicitations, c'est vraiment bon.
Merci.
Hey, ça rentre.
Alors, vous êtes tous et toutes invités ce soir, 20h, au Boquet-Bière.
All right, excellent. Toi, tu vas être là?
OK, oui.
Ouais,
j'anime avec K.Y. Boisvert, voilà, la soirée au complet. Donc, vous aurez l'occasion de m'entendre dire d'autres niaiseries si vous vous présentez.
All right. Hey, ben, merci de ton bon slam.
Plaisir.
D'un autre côté, on va aller continuer avec la chronique sur le syndicalisme d'action directe sur à l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFX. À tout de suite.
On adopte le vote par syndicat. Alors là, big problème. On adopte le vote par syndicat parce que c'est la tradition de l'AIT. Mais le vote par syndicat existe dans l'AIT parce que les syndicats marxistes, enfin qui suivaient Marx et Engels, étaient plus nombreux que les syndicats suivant Bakounine. Les permanents, donc l'analyse de Malatesta, du moment qu'on a un permanent, ça va mal finir. L'analyse de Monat, les permanents c'est dangereux, mais on ne peut pas faire de syndicalisme sans permanent. Et puis le deuxième argument, en fait, plutôt à part cet argument-là, il n'y a pas d'opposition. Parce que Monat dit il faut un syndicalisme unitaire. Sous-entendu, la CGT doit être orientée par le syndicalisme révolutionnaire. Tous les travailleurs sont dans le même syndicat, donc que ça soit unitaire. Malatesta est tout à fait d'accord là-dessus. Les anards doivent être dans une centrale unitaire. Et là où il y a une divergence, c'est que Monat voit la possibilité de changement social par le syndicat, et Malatesta dit non.
La synthèse de tout ce que les différents apports contiennent de positif forge la motion aboutissant à la charte d'Amiens en 1906. Article 2, constitutif de la CGT, modifié par le 9e congrès de la Confédération, Amiens, du 8 au 16 octobre 1906. La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique, dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs, par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'à côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste.
Sur cette belle phrase, on va aller écouter une chanson. Le groupe, c'est les Sales Majestés. Puis on va se quitter en musique. On se dit à la semaine prochaine à l'émission La Rage du Peuple, tous les mardis de 16h à 18h sur les ondes de CFLX.
Je ne demanderai pas mon reste, je me ferai collabo, on se comprend.